l'apéro Polar. La petite écuyère à cafeté
de Jean-Bernard Puy
avec Nathalie Bitton
et Laurent Lévy. Résumé de l'épisode précédent.
Gabriel Le Couvreur, dit Le Poulpe, enquête à Dieppe sur le suicide de deux adolescents, Bérénice et Frédéric. La lettre d'explication qu'ils ont laissée éveille ses soupçons. Avec Cécile, jeune lycéenne diépoise, ils tentent de découvrir la vérité.
Deuxième épisode.
À Dieppe, les falaises sont glissantes. Ils commandèrent des huîtres moyennes qui, très grises, pas vraiment grasses, étaient excellentes. Gabriel refusa le muscadet pour une commune Heineken. Cécile n'avait pas dit grand-chose d'intéressant depuis un long moment.
À quoi vous pensez ?
À ce que vous pensez, vous.
Qui êtes-vous ? Si vous me dites exactement qui vous êtes, je saurais quoi dire ?
Non, vous ne saurez pas qui je suis. Ce que je suis n'a aucune importance. Considérez-moi comme un instrument, comme un marteau tapant sur une enclume.
Le marteau, on dirait plutôt que vous l'avez déjà pris sur la figure. Mmh.
Deux jeunes se sont suicidés pas loin d'ici. Un suicide particulièrement horrible. C'est rare de rencontrer une détermination pareille. J'essaye simplement d'en savoir un peu plus.
Mais pourquoi faire ? Vous êtes une espèce de détective, c'est ça ? Un flic en civil ?
Écoutez-moi bien, petite fille, parce que vous vous comportez comme une petite fille. J'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous connaissiez Bérénice et Frédéric ? Oui ou merde ? Si c'est oui, qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur eux ? Si c'est merde, je me casse. Je vais dormir ou boire, je sais pas encore, et vous ? Vous allez retourner voir papa-maman dans votre villa avec le beau tulipier en fer sur le devant, la vue sur la mer, le poisson pâlé dans le congélo et la photo de Kevin Costner au-dessus de votre plumard.
Perdu, c'est Robert Mitchum.
Ah.
Frédéric, c'était mon mec. C'est Béré qui me l'a piqué, il y a 6 mois. J'ai été désespérée au moins 15 jours. Et puis j'ai pris sur moi une bataille perdue, mais pas la guerre. J'ai fait semblant de m'en foutre. J'ai renoué avec eux, je suis même devenue assez copine avec Béré. Mais c'était uniquement dans l'espoir de regagner Frédéric et de lui repiquer à cette salope de la haute. J'ai perdu mon amour, je me suis comportée comme une imbécile. J'ai pas résisté à tirer sur la corde. Pauvre conne. Frédéric était un type formidable, gentil, hyper intelligent, beau comme un astre, enfin. Moi, je le trouvais beau. Calme, fort, en aucune manière quelqu'un qui puisse à un seul moment envisager de se supprimer. Il s'entendait très bien avec ses parents, les pauvres. Je pense aussi à son petit frère. Je comprends pas ce qui a pu se passer.
Et ils s'aimaient ?
Faut croire. Il paraît qu'ils ont laissé une lettre. C'est quoi ce torchon ?
C'est une copie de la fameuse lettre où ils expliquent leurs gestes.
Vous rigolez ? Frédéric n'aurait jamais écrit ce truc. À la rigueur, il aurait fait un petit poème rageur, à la Gainsbourg, ou un haïku. Vous savez ce que c'est ? Un haïku ? Mais pas ce truc. Gérard, qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas.
Gabriel raccompagna Cécile jusque chez elle. Sur Frédéric, Gabriel n'apprit pas grand-chose, sinon qu'il était un compagnon parfait et que ses parents, assez vieux, proches de la retraite, avaient sans doute préféré quitter les lieux de ce drame atroce pour ne pas être confrontés à tous les endroits où ils auraient revu l'image permanente de leur fils. En revanche, sur la famille de Bérénice, Cécile avait été plus bavarde et surtout hargneuse. Des grands bourgeois, tendance de Villiers, pas un pour sauver l'autre. Père avocat, droit international, mère restant hautaine à la maison pour élever ses 7 enfants. Un tous les 2 ans. Bérénice était l'aînée. Une grande maison en briques avec tours et rhododendrons géants à Varangeville. Fallait aller voir ce bled, avait dit Cécile. Deauville, à côté, c'était une favela de Sao Paulo. À la sortie du restaurant, il s'était assis sur les galets humides de la plage. C'est là qu'elle s'était mise à parler de tout et de rien, de Frédéric et de Bérénice qui n'étaient pas très belles, mais qui avaient un charme inouï. Elle faisait du cheval d'une manière intensive. Elle était tout le temps fourrée au club hippique d'Arc-la-Bataille.
Gabriel trouva facilement le club hippique. Bonjour, excusez-moi, je me suis permis d'entrer.
Je vois bien.
Voilà, j'ai une étrange requête à faire. Vous êtes la gérante du club.
si on veut. Mais la gestion, c'est quand j'ai le temps.
Voilà, c'est assez compliqué. Je suis le parrain de la petite Bérénice. Vous savez, la petite qui...
Qu'est-ce que vous voulez ?
Voilà, c'est... J'étais son parrain, pas de la famille, un ancien ami du père. Maintenant, ça a changé, je suis brouillé avec toute la bande à Varangeville, la vie, la politique, tout ça. Alors, je n'ai eu que les articles de journaux pour me parler de Bérénice. Et vous savez ce que c'est, un article de journal, les faits d'hiver, ils appellent ça. C'est vrai, d'ailleurs, dans mon cœur, c'est vraiment l'hiver.
Comment il s'appelle, ceux de là-haut ?
De Bailly de Longueville, d'accord, vous ne me croyez pas. Monsieur de Bailly de Longueville est avocat, spécialiste de droit international, et madame, qui reste à la maison, a élevé ses 7 enfants dont... dont Bérénice était l'aînée. Mais avant, quand je la connaissais, elle voulait surtout se consacrer à...
Oh, ça va. Si elle pensait déjà à se consacrer, comme vous dites, à toutes ces conneries, c'est un peu normal que vous soyez brouillé avec elle. Hein ? C'est pour ça, non ?
Oui.
On dirait que vous avez honte.
Non. Vous savez, je pense à Bérénice, rien qu'à Bérénice. Je peux décemment que penser à Bérénice.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
S'il vous plaît, prendre 5 minutes de votre temps pour me dire des choses merveilleuses sur Bérénice. Ça me suffira amplement. Je repartirai à Paris avec au moins de belles images dans la tête.
Je vous préviens tout de suite. Les dernières fois que j'ai vu Bérénice, ce n'était pas Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion. Plutôt dans les Misfits. Elle était toute bizarre. Elle rêvait de travailler dans un cirque comme Zingao. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, pas le cirque, non, simplement là où les écuyères sont comme des anges. Une excellente cavalière, vraiment. Eh bien, depuis 2 semaines, elle refusait de monter à cheval. Elle aurait pu rester chez elle pour ne pas être tentée, mais non, elle venait là où vous êtes. Elle s'occupait de son ongre, changeait la paille, le promenait à la longe. Mais... elle n'est jamais montée dessus.
Mais je comprends pas, elle avait peur.
Je ne crois pas.
Et vous croyez quoi ?
Pourquoi ? Une jeune fille, à votre avis, ne monte plus à cheval.
Ah bah j'avoue.
Je ne sais pas, monsieur, quelle image vous allez emporter de votre filleule, mais... il y a des raisons évidentes. Des raisons féminines.
Vous voulez
dire... Son teint était un peu plus diaphane que d'habitude et... elle marchait un peu plus droite. Comme si elle voulait placer son corps un peu en arrière. Gabriel roulait à fond de cale sur la départementale. Une fille enceinte qui se suicidait avec le père de son enfant parce que... le monde était contre elle parce que c'était la tuile du siècle, ça ne tenait pas. Ce genre de gaffe était facilement repérable, surtout quand on fait du canasson à outrance. Or, elle semblait éviter tout ce qui pouvait ressembler à des montagnes russes, comme si elle y faisait déjà très attention à ce truc qui lui poussait dans le ventre. Il trouva facilement la rue Aristide Briand. Ah, pour être brillant, ça l'était, et il se remit en planque. Il ne connaissait pas le bonhomme, mais le type qui sortirait de la jolie petite maison traditionnelle en briques, serait sans doute lui, le médecin légiste. Un binoclard, en veste verte, genre sportif tendance jogging, dévalait le perron de la maison. Il fit une 20aine de mètres et monta dans une Saab Turbo. Gabriel déboîta et, comme dans le plus ringard des films américains, se mit à suivre la Saab. Ni trop près, ni trop loin. Il se gara 2 kilomètres plus loin, à la limite de la ville, devant un dispensaire de quartier. Monsieur se faisait également dans le social. Personne dans les parages. Gabriel se gara, enleva sa veste et traversa la rue. Il sonna à la porte. 2 coups. Suffisamment pour que cela soit urgent et pas assez pour indiquer le mec hargneux. C'est donc le médecin qui vint lui-même lui ouvrir et qui se prit aussi sec un pain en pleine figure. Il s'écroula à la renverse. Gabriel ferma la porte à clé. Prit le toubib sous les bras et le traîna dans le premier bureau. Il installa sa victime, toujours évanouie, sur un fauteuil. Il fouilla dans les instruments, déposés en rang sur une petite voiture roulante en émail et choisit une sorte de scalpel. Alors, il gifla le toubib. L'observa pensivement en train de reprendre ses esprits. Un peu de sang perlait à sa lèvre inférieure. Et quand le type ouvrit les yeux, il lui mit le scalpel sous l'œil, en plein dans le cerne. « Oh les mains, les yeux, vous êtes cerné !» Le docteur le regarda comme dans un mauvais rêve.
Ah ! Écoutez-moi bien, je vais vous poser une question, vous allez répondre. Sinon, je vous abîme un œil. Ensuite, je m'attaquerai au second. Et ensuite, pour le diagnostic, ça va être un peu du rail. Pourquoi ne pas avoir dit que Bérénice de Longueville était enceinte ?
Mais je l'ai dit, mais ils ont pensé
qui
que...
Qui ? Ils ?
La famille, les gens... Les gendarmes, le juge d'instruction, ils ont pensé qu'il n'était pas nécessaire. de divulguer ce genre d'informations, somme toute assez privées.
Pourquoi ?
Parce que c'était pas la peine d'enfoncer le clou. Hein ? Deux morts, pas la peine d'en rajouter un de plus.
Elle était enceinte de combien ?
Deux mois, à peine trois.
Personne n'aurait pensé décemment que ça faisait une personne de plus.
Vous plaisantez, j'espère. Chez les deux baillis de Longueville, la vie c'est sacré. Pas question que l'on puisse dire que Bérénice avait entraîné dans la mort une personne innocente. Ça, pour eux, c'était l'horreur absolue, hein, le contraire de tout ce qu'ils pensent. Et leur tristesse était suffisamment grande comme ça.
Qu'est-ce qui a été caché encore ?
Rien.
Pas trace de coup, pas d'hématome ?
Rien, je vous le jure. Écoutez, vous savez, je vais pas vous faire un dessin. Un autorail de plus de 40 tonnes leur est passé dessus. Faut pas l'oublier. Alors, les hématomes à repérer sur les morceaux ? J'avoue que ça n'a pas été ma principale préoccupation.
Alors vous avez préféré regarder dans les estomacs ?
Dans le cas de suicide, c'est la règle.
Bon, écoutez-moi. Je n'existe pas. Je ne suis pas venu ce matin. Personne ne vous a posé de questions. Sinon, je reviens à l'improviste et je vous fais avaler une clé d'armoire normande chauffée à blanc. Il retourna au bar des tribunaux parce que le choix des bières était conséquent. Il commanda une Stout Maxon très noire et crémeuse, à l'arrière-goût de lait et le caramel, parce qu'il avait envie de réfléchir et que cette bière n'est jamais lourde. Il n'avait pas beaucoup avancé. Hormis sa quasi-certitude non prouvée que Bérénice et Frédéric n'avaient pas écrit leur lettre d'adieu, il n'avait pas grand-chose sous la main. Ensuite, il déambula en respirant fort. Il n'était pas loin de 11h du matin et il faisait encore frais. Il trouva une librairie et compulsa une encyclopédie. Puis il repartit vers Pourville. En passant devant le lycée, il se surprit à guetter s'il ne voyait pas Cécile, passa à son hôtel, changea de vêtements, choisit dans son tas de faux papiers d'identité celui qui lui semblait le plus évident, contempla longtemps son Beretta, mais le laissa dans l'armoire, sous son sac de voyage. Il partit à pied vers Varengeville. Gabriel arriva devant un grand portail de bois, vert amande. Une plaque en acier frotté, DBDL, de Bailly de Longueville, en lettres ornées, très simples, très chic. Une sonnette, une petite grille de haut-parleurs. Gabriel appuya en respirant un grand coup. Un grésillement.
Oui ?
Bon, excusez-moi de vous déranger. Mon nom est Jérôme Le Prieur. Je travaille pour le Conseil régional de Haute-Normandie. Je fais un article sur les rhododendrons, en vue d'un livre de prestige. On m'a dit que vous en aviez de tout à fait unis dans les couleurs pâles. Je sollicite la permission de les contempler pour les décrire. Je ne vous dérangerai que quelques minutes.
Un instant.
Le portail bien huilé s'ouvrait sur une sorte de gommeux ventripotent, les cheveux plaqués en arrière, dans un costard que même Mitchum n'aurait pas osé porter dans un film Z des années 50.
Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Elle vous sera rendue en sortant. Monsieur et Madame de Bailly de Longueville viennent de vivre une épreuve familiale difficile. Ils ne voudraient pas que des journalistes puissent se mêler de leur détresse privée.
Mais je ne suis
votre
pas...
Votre carte, s'il vous plaît.
Il le suivit le long des allées bordées de spirées et de buis taillés au cordeau. Plus loin, une gentilhommière en briques presque jaune, recouverte presque totalement de lierre et de chèvrefeuille. Et devant la porte d'entrée vitrée, une femme en tailleur sombre. Derrière elle, un jeune homme en ciré noir qui aurait pu figurer dans un film sur la Gestapo, cheveux très courts, teint rose, joues de poupon, œil allumé, un carnet noir sous le bras, apparu comme par enchantement. Il se plaça juste derrière la maîtresse de maison, observant Gabriel comme s'il était un étron de Doberman. Madame ?
Monsieur ?
Le prieur, Jérôme Le Prieur.
Monsieur Le Prieur, de quelle famille font partie les rhododendrons ?
Normal. Normal et prévisible. Mais le Gabriel, il avait pris ses précautions, c'est d'époque. Les éricacées sont des dicotylédones à fleurs le plus souvent gamopétales. Le rhododendron est une plante arbustive, à feuilles persistantes, et dont la fleur comporte 10 étamines, alors que l'azalée, qui est aussi une éricacée, n'a que 5 étamines et est à feuilles caduques. On en compte plus de 500 espèces et... nouveau rhododendron qu'un papillon contemple, aile jointe. C'est un haïku du maître japonais Matsuo Basho.
Je vous remercie, 1600... monsieur le prieur. Et veuillez m'excuser, un drame familial m'oblige à ne pas vous recevoir. Mais n'est pas dit que cette maison n'ait pas été accueillante aux gens de goût. Vous avez donc tout le loisir de vous promener dans le parc. Monsieur Esposito vous tiendra compagnie et vous guidera. Veuillez m'excuser, vraiment.
Encore une chose, madame de Bailly-Longueville. Si c'est pas Bérénice et Frédéric qui ont écrit leur soi-disant lettre d'adieu, alors qui c'est, hein?
Esposito, fous-moi cette merde dehors.
Mais Esposito n'eut pas l'occasion de faire son bandit corse. Ses couilles venaient d'être frappées sauvagement par un rhododendronophile muté Cantona. Ses genoux se rapprochaient du sol avec lenteur, son souffle était coupé. Gabriel récupéra sa carte d'identité tombée sur le gravier. Madame de Longueville était changée en statue de sel. L'irruption soudaine de la violence lui avait coupé tous ses effets de manche. L'autre nazi en noir fit un pas en avant. Gabriel le pointa rageusement de l'index. « Toi, tu bouges ne serait-ce qu'un doigt de pied et ta gueule, elle va ressembler au plan aérien de Dresde. Votre vulgarité m'étonne, madame. Deux corvées de chiottes, demain matin, deux bonheurs. C'est signe de nervosité qui a écrit cette lettre. »
« Je vais appeler la police. » »«
C'est ça. On va pouvoir demander officiellement une analyse graphologique. »
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je vous demande qui a écrit cette lettre à la place de Bérénice et Frédéric.
Mais c'est l'écriture de Béré. Il n'y a aucun doute. C'est moi qui l'ai trouvé et ça a été confirmé par la justice.
D'autres experts pourraient intervenir.
Le meilleur expert, c'est moi-même, sa mère. Il y a beaucoup de lettres manuscrites de ma fille.
On aurait pu aussi leur dicter.
Vous cherchez quoi exactement, monsieur le prieur ou je ne sais qui?
Je ne sais pas, mais je trouverai. Je n'en avais plus vraiment l'intention, mais maintenant, je sais que quelque chose ne tourne pas rond dans votre propriété à la noix. Je vais vous faire bouffer jusqu'au trognon tous les rhododendrons que vous avez dans votre casbah. Appelez la police, faites comme vous voulez. Vous avez vos amis? J'ai les miens. On verra bien qui est les plus efficaces. Il passa le portail ouvert sans se retourner, et juste après, se mit à cavaler tout droit, puis tourna à gauche et à droite et encore à gauche. Il ralentit au bout d'un petit moment, et adopta une marche rapide et régulière, tout droit vers la mer. Il se mit en marche parmi les ajoncs en fleurs et les hautes herbes. Le chemin des falaises était sinueux car elle s'écroulait, tous les 200 mètres environ. Il marcha 2 ou 3 kilomètres, passa quelques barrières, croisa quelques vaches, aventureuses et équilibristes, repassa une clôture de fils de fer barbelés, remonta un petit raidillon et se trouva face à 2 types. L'un, un roux en blouson de cuir vert, avait un fusil de chasse. L'autre était une sorte de torero en goguette. Exit pour tout le monde, pensa Gabriel en un quart de seconde. C'était trop con. Le torero se tenait à distance respectueuse, sans doute pour ne pas s'exposer à un coup de corne imprévu. Il se baissa pour ramasser une grosse pierre. Gabriel n'aimait pas ça, ça sentait le lynchage à plein nez. L'autre fit mine de lui jeter la pavasse à la tête. Par pur réflexe, Gabriel rentra la tête dans les épaules, tournant un peu sur lui-même, se protégeant de ses avant-bras. Le second tueur en profita pour lui balancer en plein dans les reins un coup latéral de son canon de fusil. Déséquilibré, Gabriel vit le vide sous lui, pensa au gros silex 40 mètres en dessous. Les sons disparurent à part le bruit du vent et il tomba. Dans sa courte chute, il tenta de se protéger et de rester debout. Mais il heurta violemment un bout de falaise, fut déséquilibré, fit quelques loopings, sentit des chocs un peu partout sur son corps devenu très mou. Et perdit connaissance à la seconde même où il s'enfonçait dans un tas de glaises gluantes et de branches d'arbres sèches, juste entre 2 gros blocs de craie.
C'est le froid qui le remit en selle. Tout était tellement noir qu'il crut être aveugle. Jusqu'au moment où il se rendit compte que c'était de la boue qui le recouvrait presque entièrement. Il était tombé dans une coulée de terre d'éboulement. Il n'était pas mort. Ça allait chier. Mais alors, ça allait chier. Il ne pouvait faire aucun mouvement. Il ne sentait pas vraiment de douleur. Il devait être anesthésié par le choc. Ou alors ses bras étaient coincés. Avec soulagement, il bougea les doigts de pied. Il ne serait pas hémiplégique. C'était déjà ça. Il pourrait toujours apprendre à lancer des couteaux avec les orteils. Il se récita un haïku, n'importe lequel, le premier qui lui vint à l'esprit. Contre une dague.
Contre une dague.
Il voudrait bien échanger,
le sabre de voyage.
C'était bien vrai. Il serra les dents et se démembra selon les lois les plus évidentes de la schizophrénie. Un membre après l'autre. Le pied, un genou, une main, une araignée. À chaque fois que les muscles du dos ou bien ceux du ventre jouaient, Gabriel hurlait de douleur. À chaque fois, il se plongeait la tête dans la boue et faisait des bulles. Il pensait à un roman de Maurice Leblanc, L'aiguille creuse qui devait se passer dans la région, quand il aperçut au loin la silhouette dansante d'un jogger. Gabriel détestait ce genre de bonhomme, mais là, il se dit que si ce type continuait son entraînement sans varier de trajectoire, il allait passer à 5 mètres à peine de lui. Il leva sa jambe, c'était le seul drapeau qu'il pouvait hisser, ferma les yeux et se mit à crier le plus fort possible, les mêmes paroles.
« Ici ! Ici ! Au secours ! Au secours !»
Quand il ouvrit les yeux, le type était au-dessus de lui, blanc, couvert de sueur, le regardant comme s'il était le plus gros fossile qu'il ait jamais vu.
Ah non, mais vous l'avez... Non, mais qu'est-ce que vous...
Bah, je suis tombé de la falaise. Je peux plus bouger. Ça va pas être trop grave, mais je peux plus arquer.
Mais je vais avertir les gendarmes. Ils ont un hélico.
Ah, non, écoutez-moi. Vous allez continuer votre entraînement et filer dardard à l'hôtel Normandie sur Pourville. Là-bas, là, il y a un client, le patron, je sais pas qui a un 4x4 qui vient vite. Ça ira plus vite que les Pandores. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un bain chaud. Après, je file à l'hosto.
Vous êtes tombé de la falaise, mais c'est incroyable.
Oui, j'ai essayé de cueillir une azalée. Vous savez, une azalée, une ericacée, qui n'est pas à feuilles persistantes et dont la fleur comporte 5 étamines.
Okay, j'y vais. J'y vais. Ne bougez pas.
Ah, je ne bouge pas. Je vous le promets.
Il vit partir le type à longues enjambées, avec son body fluo, ses Nike tout-terrain et ses muscles bien huilés. Il ne croyait pas en Dieu, mais si ses anges étaient tous fringués comme ça, il ferait un effort, c'était promis. Et rassuré, Gabriel médita sa vengeance.
Vous venez d'écouter le 2e épisode de La Petite Écuyère à Cafeté, une adaptation du roman de Jean-Bernard Puy, avec Nathalie Bitan et Laurent Lévy, mise en œuvre de Didier Ruiz, création sonore d'Adrien Cordier, production La Compagnie des Hommes, enregistrée le 19 juin 2026 au Jardin des Berges à Lodève, lors d'une soirée organisée par Entrée Libre et Terre en Partage. Prise de son et montage, William Verdier pour Radio Larzac.
Stretto. retrouver Apéro Polar avec l'adaptation de La Petite Écuyère à Cafeté de Jean-Bernard Puy, vendredi prochain à 12h et en rediffusion mardi à 16h, ou en podcast sur radiolarzac.org, émission Polar, Vin et Compagnie.
Tiens, voilà le poulpe.
Et d'ici, on dirait plutôt une murène.